Bonsoir.
Ce frère Varim, il est, comme tout le monde sait, différent des quatre autres. Le Gaon de Vilna explique, que dit aussi le Maharal par ailleurs, que les quatre premiers livres ont été entendus directement de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, par l'organe de Moshe. Pour Dvarim, ce n'est pas comme ça. Parce que Dvarim, le clan d'Israël a reçu les enseignements du Sefer Dvarim de la même manière qu'il a reçu ensuite les nevouot, les prophéties des autres prophètes de Moshe. C'est-à-dire que avec les autres prophètes, ce n'était pas Hachem qui parlait par le dans l'organe des prophètes en question. Hachem leur avait parlé à un moment donné aux prophètes, et quand la question, le problème se posait, quand ils le pensaient adéquat, les prophètes disaient en gros ce qu'Hachem leur avait dit, mais pas directement les paroles.
C'était comme
D'une certaine manière, c'est comme si Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il devenait un prophète comme les autres.
les premières livres, c'est à chaque qui les a dit directement. Et les huit suivants, c'est à chaque qui les a dit par l'organe de Moshe.
Oui.
Toute la Torah.
Toute la Torah était par l'organe de Moshe. Hachem parlait par, c'est-à-dire au moment où Hachem parlait, ben, si tu veux, c'est comme ça passait par la bouche de Moshe, c'était, il n'y avait pas un moment où le prophète, il avait reçu un message, il portait en lui, etc., et à un moment adéquat, il allait redonner le message, pas obligatoirement verbatim, c'est vraiment, il allait dire, en gros, ce qu'Hachem lui avait dit. Ça, c'est tous les prophètes. Comme on a vu la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, il disait à Davar, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il parle en montrant du doigt la chose, c'est comme s'il parlait de façon, comme on dit aujourd'hui, performative, c'est-à-dire quand il parle, la chose se fait, comme quand Hachem parle. Et donc, tout le Sefer s'appelle Sefer Dvarim. Parce qu'en fait, dans ce Sefer, il s'agit de paroles. Dans les autres Sfarim, il n'y a pas que des paroles. Ici, il n'y a que des paroles. C'est le testament de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit, à son, ici, il leur a dit des choses qu'ils avaient besoin de savoir. Hachem lui avait dit pour qu'il les dise de cette manière, de la manière Ko Amar Hashem. Ainsi a parlé Hashem. Après un certain temps, je pensais que il y avait la nevoie de Moshe, la nevoie des autres prophètes, et puis il y avait le Sefer Dvarim qui était la transition. Le Gaon ici, il dit qu'il n'y a pas de transition. Le Gaon, il dit que Moshe, quand il parle ici, il parle comme les autres prophètes. Donc c'est un passage. C'est déjà du vivant de Moshe, dans les derniers jours de Moshe, les Bnei Israël vivent une relation avec Hachem qui est complètement différente. Hachem ne leur parle plus directement. Il leur parle, mais par l'intermédiaire d'un prophète. ramène ici dans le. En ce cas, il ramène un enseignement de Rav Hirsch qui dit qu'effectivement, le Dvarim, c'est l'introduction du peuple d'Israël au nouveau mode de vie qu'il devra se forger en Eretz Israël. Lorsqu'il aura traversé le Jourdain, le peuple ne verra plus la présence permanente d'Hachem en son sein, ne bénéficiera plus de miracles quotidiens, des miracles quotidiens dont il a joui dans le passé, dans le désert, il devra labourer, planter, moissonner, mettre en germe, mettre en place un gouvernement, des tribunaux, établir des relations sociales, des structures pour protéger les pauvres, les nécessiteux, subvenir à leurs besoins. Il devra faire preuve d'une émouna et d'une discipline de soi inébranlable afin d'éviter les tentations et les pièges que lui tendront les peuples voisins ainsi que les faux prophètes. Donc, mon cher Rabbeinu va mettre en valeur justement ces valeurs dont le clan d'Israël devra s'inspirer, devra faire, les faire siennes en fait, et ils devront être forts en fait. Alors, c'est Mishneh Torah. Dans Mishneh Torah, on a l'impression que c'est une répétition de la Torah. Donc, ce n'est pas vraiment une répétition. D'abord parce que tout n'est pas répété et qu'il y a quelques petites choses qui sont différentes. Mais en gros, c'est une répétition des principes fondamentaux dont Moshe Rabbeinu veut que les Bnei Israël s'inspirent dans toute leur vie après lui, quoi. Quand il ne sera plus là, quand Hachem ne se manifestera plus de la même manière, de façon absolument évidente. Hachem est toujours présent, mais il n'est pas présent de façon visible. Le Rav Volve rapportait la Haftara qu'on lit en Parshat Dvarim. Dans la Haftara, les Chachamim ont choisi le texte de la Halakha, le texte de la Haftara, qui reflète ce qu'ils ont pensé être l'essentiel de la Parasha. C'est des textes qu'on avait substitués à la lecture de la Torah. À un moment donné, les Romains avaient interdit qu'on lise la Torah. Et donc, les Chachamim ont choisi les textes des Neviim qui remplaceraient la lecture de la Torah que le Shabbat, on ne pouvait plus faire. Et donc, quand on lit la Haftara, on a des choses évidentes qui sont dites d'une autre manière, mais qui disent la même chose que ce que la Torah aurait dit ce Shabbat, si vous voulez, si on avait pu la lire. Quand on a eu la permission de, on a la possibilité de relire dans la Torah, on n'a pas supprimé la Haftara. On a continué de lire les deux. Bonsoir. Et dans les premiers psukim du Sefer Yeshaya, qu'on lit justement par Parshat Dvarim, on lit Ami lo itbonan. Mon peuple n'a pas réfléchi. Dire le reproche qui est fait au clan d'Israël. C'est un reproche qui est dans dans le ton de la paracha de Devarim, qui est aussi une paracha dans laquelle il y a des reproches de Moshe Rabbeinu au clan Israël. Et donc, dans la Haftarah, on retrouve cette notion. Et c'est comme si le Navi Yeshaya, il avait essayé de dire en un mot le grand problème, problème qui est détaillé dans Sefer Dvarim, c'est ne pas réfléchir. Commencer cette prophétie par cette phrase-là vient évidemment nous dire combien la hitbonenout, la réflexion est fondamentale. Mais la question qu'on peut poser, c'est quoi la réflexion dont on parle ici? Qu'est-ce qu'on veut dire par hitbonenout? Le Ramchal, après Moshe Chaim Lutzato, donc, dans le Derech Etz Chaim, il dit le secret qu'il y a derrière la Hitbonenout. La Torah, elle est comparée à un feu. Et chacun de ces mots est considéré comme une braise. C'est une braise. Il n'y a pas de flamme. Elle n'est pas complètement éteinte, évidemment. Et donc, si on veut effectivement produire un feu, il va falloir travailler. Et donc, travailler la Torah, travailler chaque braise. Et enflammer chaque braise en quelque sorte. Et en plus, quand on, l'être humain qui a la possibilité effectivement de produire ce feu, en d'autres termes, ça veut dire produire la Torah, il a aussi la possibilité d'arriver par ce biais-là à des niveaux de compréhension spirituelle en fait, très élevés. Mais tout ça, c'est seulement s'il met le feu avec Hitbonenout, dit le Ramchal. Et il dit que ce mot, le monde a été créé spécifiquement pour laisser le choix à l'homme. Si les choses étaient absolument claires, si au premier coup d'œil on voyait exactement les choses, si on comprenait la vraie vérité du monde et de la Torah, on ne fauterait jamais. Mais Yetzer Hara, il n'aurait aucun impact. Parce qu'on verrait très très clairement que toute mitzvah est un trésor et que toute transgression est un désastre. Pour que la chose soit équilibrée, pour qu'il y ait une possibilité de choisir, alors je vous vois créer un monde dans lequel la pleine connaissance est considérée comme un charbon, comme une braise, qui a la potentialité de donner du feu, mais qui n'est pas feu. Donc l'homme doit choisir, est-ce qu'il produit le feu en question, ou est-ce qu'il laisse cette braise, peut-être éclairant un petit peu. Si on réfléchit de cette manière-là, on peut comprendre comment il y a une nécessité de bonne note, de réflexion, et que ça joue un rôle fondamental dans le projet de la création. C'est le moteur, en fait. C'est le moteur qui pousse l'intelligence de l'homme à essayer de comprendre les choses. Il aide dans la guerre contre le Yetzer Hara. Plus les choses sont claires pour lui dans le monde, moins il a d'intérêt à fauter. Il voit bien, il voit clairement que c'est pas que la faute n'apportera aucun bénéfice. Au contraire, ce sera une catastrophe. Donc la hitbonenout, c'est la capacité de se concentrer sur une idée, sur une façon de réfléchir aussi objectivement que possible sur un sujet, avec l'intention d'intégrer la connaissance qu'on aura acquise, la sagesse qu'on aura acquise dans cette réflexion, grâce à cette traduction, de l'intégrer dans la vie. Ça veut dire prendre la Torah et Moussa que nous connaissons déjà, mais que nous ne connaissons que comme une braise. Et en faire un feu qui va fabriquer un chemin, en quelque sorte, en nous, dire dans notre esprit, dans notre cœur. Et en plus, l'Aïd-Bonenout, c'est un outil qu'on doit utiliser pour se connaître soi-même. Quelqu'un réfléchit objectivement sur ses actions, sur le but, les buts de sa vie, il peut arriver à comprendre certaines choses et à faire certaines choses qui veulent changer son chemin dans la vie, pour le mieux, pour le meilleur, évidemment. Donc c'est ça le. Si vous voulez, l'idée du Navi, quand il reproche au Bnei Israël de ne pas avoir fait ce travail-là. Le Bnei Israël qui entre maintenant, ils sont riches de tout l'enseignement qu'ils ont reçu, des quatre livres en quelque sorte. Et il faut qu'ils en fassent quelque chose. Sinon, ça reste des braises susceptibles éventuellement de devenir du feu, mais. Ça ne devient jamais du feu tout seul. Et il y a une façon très précise qui permet de transformer ces braises en véritable feu. Alors, le passouk. Le commencement du Sefer et de la Parasha, donc. Elle est Advarim, donc. Celles-là sont les paroles que Moshe a dites à tout Israël, alors qu'ils étaient encore Ever et Yarden. Ils n'avaient pas franchi le Yarden. Ils étaient encore dans le désert. Barava, Moulsouf, Ben Paran, Ben Tophel, Ben Lavan, Ben Hatzerot, de 10 Ahav. Cette énumération-là. Ce sont les paroles avec lesquelles Moshe Rabbeinu a commencé. C'est son discours au Bnei Israël. En fait. La Torah, elle donne des localisations, elle donne des noms d'endroits. Lié avec ce que Moshe Rabbeinu nous dit, elle donne des noms bien précis. Mais Rashi dit que la Torah n'est pas en train de nous donner des lieux, des noms de lieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est en fait des lieux, enfin des noms qui font allusion à certaines transgressions. Israël, durant leur pérégrination, ils se sont à plusieurs reprises mal conduits en quelque sorte. Moshe, il leur fait des reproches, mais pour éviter de les embarrasser en quelque sorte, il dit les choses avec des références comme si c'était les lieux, les noms de lieux, mais ils sont censés comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire de comprendre que il fait référence aux fautes que les Bnei Israël ont faites. Quand il parle de la grande faute des Bnei Israël, qui est le veau d'or, mon cher Abbé nous utilise 10 Zahav. 10 Zahav, on pourrait le lire Daït Zahav. Il y en avait plus que nécessaire de l'or. Et Rashi explique, en fait, en même temps qu'il fait référence à la faute des Bnei Israël, il essaye de diminuer la faute. Et Rashi, dans la parasha de Shemot, dans le Sefer Shemot, pardon, à la fin du Sefer Shemot, il écrit que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem que c'était lui en réalité qui avait causé la faute du veau d'or, parce qu'il leur avait donné tellement d'or au Bnei Israël. Si tu ne leur avais pas donné tellement d'or, ils n'auraient pas fait le veau d'or. Et les Bnei Israël étaient quasiment dans une situation analogue à celle d'un roi qui donne à son fils, il lui donne à manger, à boire, il lui met une bourse autour du cou et il le place dans une rue dans laquelle il y a des prostituées. Qu'est-ce qu'on peut espérer de son fils? Donc, ça a l'air absolument énorme ce qu'il est en train de faire, quoi. Mon cher Abbé, il est en train de dire à Hachem, en fait, s'ils ont fait le veau d'or, c'est de ta faute. Quand on a tellement d'or, faut qu'on en fasse quelque chose de cet or. Est-ce que mon cher Abbé nous voulait dire que les Bnei Israël étaient complètement piégés? Évidemment pas. Les Bnei Israël avaient la possibilité, même avec cet excès d'or qu'ils ont reçu, Il y a déjà tout un travail qui consiste à dire que l'or en question, il était en excès. Comment dire que quand Hachem donne quelque chose, c'est en excès? Ça n'a pas de sens. Hachem a donné, c'est exactement ce dont on a besoin pour en faire quelque chose. Ça veut dire que l'Ebné Israël, avec cette abondance d'or, il y avait des choses à faire. Il n'était pas obligé du tout d'en faire le veau d'or. Mais le veau d'or était une des possibilités de se pourvoyer, effectivement, en n'ayant pas, on pourrait dire, suffisamment réfléchi sur ce qu'il faut faire avec de l'or quand on a de l'or en excès. C'est un problème. Il y a plein de gens. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas quoi faire de leur argent. Chacun d'entre nous pourrait peut-être leur donner des conseils, mais bon. Des gens qui ne savent pas quoi faire. J'ai entendu la dernière fois que à l'écoute, il y avait un restaurateur qui proposait dans son menu un steak à 1000 dollars. Il y avait des crétins qui payaient 1000 dollars pour un steak. Lui, le commerçant, il y avait des idiots pour l'acheter. Ça veut dire que les gens ne savent pas quoi faire. Quand tu vas payer, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai mangé un steak qui payait, j'ai payé 1000 dollars. Il faut d'abord trouver un public pour apprécier ça. Parce que, une fois qu'il a mangé, qu'il a payé, peut-être qu'il pourrait réfléchir et avoir honte et cacher le reçu qu'il a reçu pour avoir payé 1000 dollars. Il n'y a pas de quoi s'en glorifier, mais il faut avoir des copains. Pardon? Non, le restaurateur, à mon avis, ça ne me dérange pas. S'il y a des idiots pour le faire, bon, très bien. Mais le type qui paye 1000 dollars pour un steak. Bon, la vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui dépensent des sommes faramineuses pour une bouteille de vin. Comme si. Bon. Surtout plein de gens, probablement, qui ne sont même pas des connaisseurs en vin, mais qui ont entendu qu'il faut demander telle et telle année, tel et tel cépage, etc. Mais pour eux, c'est toute une éducation pour apprécier le vin en question. On n'est pas obligé d'apprécier, je veux dire, les goûts, peut avoir, je pensais que ben, tel autre vin, il coûte le tiers du quart, c'est largement suffisant et tout aussi bon. Donc, le Bnei Israël était vraiment dans une situation difficile, mais ils n'étaient pas complètement pieds et poings liés. Hazal donne un message ici, un message important. On n'a pas le droit de se mettre dans une situation difficile de soi-même. Parce que ce n'est pas sûr qu'on tiendra le coup. On connaît le Chazal qui dit que quand David HaMelech a dit à Hachem, éprouve-moi, Hachem lui a dit, je vais t'éprouver avec quelque chose que les enfants du Talmud Torah de Trifouille et les Patates connaissent. Et tu vas te casser la figure là-dessus. Il s'est cassé la figure sur Echetish. Tout le monde sait que Echetish c'est interdit. Lui aussi, il le savait. Il s'est quand même cassé la figure. Enfin, après, Hachem a eu pitié de lui. Donc, en vérité, Elle n'était plus hachatiche, mais lui, il ne le savait pas. Donc, il a fait tout le travail intérieurement nécessaire pour pouvoir avoir un rapport avec une hachatiche. Il a fait tchouva toute sa vie là-dessus. Parce que c'est vrai que Hachem avait fait en sorte qu'elle ne soit plus une hachatiche à ce moment-là. Mais lui, il ne le savait pas. Donc, ça veut dire que même David HaMelech ne peut pas demander une épreuve, c'est-à-dire, non, tu ne peux pas te mettre dans une situation difficile. Tous les matins, on demande à Hachem de ne pas nous amener dans un Nissayon, bien que nous sachions pertinemment qu'on ne grandit que en surmontant des Nissayonot, mais on ne peut pas les demander. Le jour de Rosh Hashanah, pratiquement tous les Nisrod que je connais, il y a un piyout dans lequel on demande à Hachem, ne nous juge pas, c'est le jour du jugement. On lui dit, halt, non, non, ne nous juge pas aujourd'hui. On sait très bien qu'on ne peut pas tenir devant ça. Donc il ne faut pas se mettre, mais Hachem envoie des Nisyonot, mais il envoie des Nisyonot qui sont des Nisyonot dans lesquels, enfin, par lesquels on peut grandir. C'est-à-dire des Nisyonot par lesquels on peut passer et sortir gagnant. Il n'y a jamais de Nisyonot envoyés par Hachem dans lesquels on sort obligatoirement perdant. Ça n'a pas de sens. Si Hachem veut nous tuer, il a qu'à nous tuer tout de suite. Donc, quand on est face à une situation problématique, il faut essayer de, objectivement, d'identifier les conséquences, qu'est-ce qui peut sortir de cette situation, et choisir un comportement dans cette situation qui nous mette à l'abri de toutes conséquences ambiguës. Personne ne peut aller à un endroit en disant c'est un endroit où on risque beaucoup de se casser la figure, dire mais moi je peux y aller, moi je suis au-dessus de ça. Et donc, tout ça, c'est vrai quand on choisit un ami, un job, une communauté, une école pour les enfants, etc. Quand des fois, on est obligé de choisir quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'on voulait, alors il faut essayer de voir dans quel cas on peut continuer de vivre selon les principes, les standards qui sont les nôtres. Et un petit peu de réflexion d'essayer d'anticiper le futur, quoi. Ça peut nous éviter beaucoup d'ennuis par la suite. Donc c'est sûr que le Sefer Dvarim, c'est un Sefer dans lequel mon cher Rabbeinu fait des reproches, mais les reproches ne sont pas des reproches pour les reproches. Les fautes, elles sont faites. Mais c'est une façon de dire que des fautes aussi, il faut tirer des leçons. Il y a un midrash sur le tout début de Sefer Dvarim,
dans Midrash Rabba, sur Dvarim Rabba, donc. Amar Akadosh Baruchou. Ré, regarde. Le Shema Shel Torah. Regarde la formulation, le langage de la Torah, qui est quelque chose de tellement précieux que ça arrange le langage. C'est-à-dire la Torah, elle arrange notre langage. D'où est-ce qu'on le sait, dit le Midrash? Est-ce que c'est marqué? Donc, Etzchaïm, c'est la Torah. C'est marqué Etzchaïm la marsitimba. Donc, ça veut dire Malanu l'ilmod mimakom acher. Pourquoi est-ce que on irait chercher ailleurs des enseignements? L'ilmod mimakomo. Apprenons de ce que nous avons devant nous. Arrête, Moshe, Hatshelo la Torah. On voit bien, Moshe Rabbeinu, avant qu'il n'accède à la Torah, c'est marqué, il dit de lui-même, Lo ish dvarim anochi. Je ne suis pas un homme capable de parler. Le Kivan Shezacha la Torah, Nitrapé le Shono, quand il a eu la Torah, tout à coup son langage, sa capacité de parler, a guéri, enfin, elle est devenue entière. Vitril le Daber Dvarim, il s'est mis à parler. Où est-ce qu'on le sait? Parce que c'est marqué Elea Dvarim, ma chère Diber Moshe. Atkan. Ça, c'est le Midrash. Alors, on doit comprendre. Est-ce que jusque-là, on est à la fin de la Torah? À la fin de la vie de Moshe. Ça fait 40 ans qu'il parle au Bnei Israël. Il a enseigné toute la Torah au Bnei Israël en permanence. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Elle est Advari, ma chère Diber Moshe, pour nous dire que c'est là qu'on voit que sa capacité de parler a guéri. Il était, avant la Torah, il ne pouvait pas parler, et maintenant il est capable de parler. Et il a parlé tout au long des 40 ans. Alors, on peut s'en sortir. On peut répondre que jusque-là, Moshe était toujours un homme qui, de lui-même, ne pouvait pas parler. Mais c'était Moshe Idaber va'Elokim ya'anenu bekol. C'est-à-dire, c'est dit sur les Aseret HaDibrot, mais c'est le Midrash ici qui utilise. Enfin, c'est toujours vrai, c'est-à-dire que ça sortait par la bouche de Moshe. Mais qu'est-ce qui donnait un col, qu'est-ce qui donnait aux paroles qui sortaient la puissance ou la possibilité d'être entendu comme une parole? Il y en a un col, c'est Elohim qui parle. Donc Moshe, c'est pas lui qui parle, c'est Elohim qui parle. Donc, il n'y a pas de preuve que Moshe parle. Jusque-là, c'était toujours Hachem qui parlait. C'est ce qui est écrit PLP Adaberbo, Velope Elozen, que Moshe Arnvim, c'est-à-dire qu'Hachem lui parlait face à face, et ce n'était pas comme avec les autres prophètes, où Hachem parlait à leur oreille. Leur parler comme quelqu'un qui leur parle à l'oreille, qui leur parle normalement. Le prophète, il allait répéter et donc transmettre au Bnei Israël ce qu'Hachem lui avait dit. mais il n'y avait que lui qui avait entendu Hachem lui parler, et ensuite c'était le prophète qui parlait. Mais chez Moshe, ce n'était pas comme ça. C'était simplement Hachem qui parlait par sa bouche. Donc le peuple, jusque-là, il n'avait jamais entendu Moshe parler. Il avait toujours entendu Hachem leur parler par l'organe de Moshe. C'est ça qu'on disait, la Shrina medaberet mitor grono shel Moshe. La Shrina parlait par l'organe de Moshe. Mais maintenant qu'il en avait terminé avec la Torah, ou c'est Hachem qui parlait par sa bouche, comme le dit le Midrash, maintenant, ça, d'avoir parler de cette manière-là, d'avoir mis sa bouche au service d'Hachem, en quelque sorte, de cette manière-là, au service de la Torah, ça l'a guéri. Et maintenant, où il parle tout seul, comme on a vu dans Dvarim, c'est Moshe qui parle, c'est plus Hachem qui parle, par son entremise. Et donc, c'est bien de ce premier verset de Dvarim qu'on sait que Moshe est guéri, parce que pour la première fois, il parle par lui-même. Le Or HaKadosh là-dessus, oui.
Excusez-moi, j'ai pas, veuillez m'excuser, hein, j'ai loupé sûrement quelque chose, mais à partir de quand on sait qu'il y a ce changement? Qu'est-ce qui nous fait entendre qu'il y a ce changement? C'est-à-dire, Hachem parle par la bouche de Moshe, et à un moment, Moshe reprend sa parole.
Et maintenant, ici, dans le Sefer Dvarim, Hachem ne parle plus par la bouche de Moshe.
Mais comment on le sait?
C'est
Comment on le sait?
lui-même inspiré par Hachem, mais c'est Moshe lui-même qui parle comme tous les autres prophètes.
Mais comment le sait ça? Est-ce
Parce
que...
que c'est marqué Diber Moshe.
Ah,
C'est tout.
d'accord. Ah, d'accord.
Le Or HaChaim dit Shebiglal zeh lo nemar ve'ele advarim. Le Sefer Dvarim, il commence par Ele Advarim et pas Ve'ele Advarim. Comme on dit Ve'ele Shemot, ça commence avec un verbe lié. Il y a une rupture par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Pour faire la différence entre les quatre livres et celui-ci. On aurait pu penser que dans les quatre livres, il y avait aussi des choses qui ont été dites par Moshe. C'est pour ça qu'on nous dit ici Ele Advarim sans le Vav, pour dire que jusque-là, il n'y a jamais eu de parole de Moshe. Mais le problème, c'est que c'est difficile de prendre ces paroles de Rahaïm à la lettre, en quelque sorte, et comprendre comme ça, parce que Yann Gemara, dans la Sechet Sanhedrin, la Gemara dit qui Dvar Hashem Baza, c'est un passage qui dit il a méprisé la parole d'Hashem. De celui qui dira que la Torah n'est pas Minashamayim. Il y a une Gemara qui dit que même si quelqu'un dit tout a été dit par Hachem, sauf qu'il y a une phrase qui a été dite par Moshe dans la Torah, ça s'appelle « Il a méprisé la Torah, il a humilié la Torah. » D'un autre côté, il y a une autre Gemara dans la Sechet Megillah qui dit que les klalot, les premières klalot, celles de Koukotaï, Agvoura, elles ont été dites par Hachem. Elle est la lote de Mishneh Torah, celles qui viendront dans Parshat Ki Tavo. C'est Moshe Mipi Atzmo Amaran. C'est Moshe Rabbeinu lui-même qui les a dites. Vous savez? Shelichora sur terre et divrei Agmara du Sanhedrin. A priori, cette Gemara, elle est contradiction, en contradiction avec la Gemara de Sanhedrin. Et encore un peu plus dur à comprendre, c'est que le Mishneh Torah n'aimerait kama mitzvot. Il y a dans Mishneh Torah, dans le Sefer Dvarim, plusieurs mitzvot, she'enam muzkarim be'arba'a chumashim, qui ne figurent pas dans les quatre premiers livres. Est-ce que Khalila, ces mitzvot-là, il y a dans ces mitzvot, il y a Yiboum, il y a Motsi Shemra, il y a Gerushin, Edim Zomemin, etc. Toutes sortes de mitzvot très importantes. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ces mitzvot, parce qu'elles sont dans Sefer Dvorim, elles n'ont pas été dites par Hachem. C'est Moshe Rabbeinu qui aurait inventé ces mitzvot de lui-même. Alors, on peut essayer d'expliquer ce Or HaChaim qui est en contradiction, évidemment, aussi. On a déjà dit que Lashon HaKodesh, Davar, ça peut vouloir dire aussi chafetz, désiré. Et dibour aussi, ça peut dire chafetz, ça peut dire dibour. Pourquoi? Parce que kol chafetz yisodo hu, Hashem amkayem oto, mamarot nivra haolam. Le monde entier a été créé à partir de ce qu'on appelle Mamarot, mais Mamarot et Dibourim, c'est la même chose. Donc tout n'est que parole. Tout ce qui existe est d'abord parole. C'est parole divine, mais parole d'abord. Donc on peut dire que mon cher Rabbeinu, quand il dit: je ne suis pas un homme de parole, je ne suis pas un homme à parler. Il voulait dire que quand je parle en ton nom, les gens ne voient pas dans ce que je dis, si c'est moi qui parle, ils ne voient pas que c'est toi qui parles. Ils entendent une parole humaine. Mais une parole humaine, elle n'a pas, c'est le pouvoir de conviction, de persuasion. Et donc, tu ne peux pas m'envoyer parce que là, il ne dit pas spécialement sur lui, mais il dit: mais moi, si tu parles, si c'est, ça parle par mon organe, les gens, ils vont penser que c'est moi qui parle. Alors, Hachem lui a dit: Ata, l'air, toi, vas-y. Anochi eye impicha, veroticha. Moi, je serai avec ta bouche et je te dirai ce que tu dois dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire: eneni memane otcha leshliach, shemosrim lo dvarim, ma'avir. Je ne suis pas en train de te désigner, dit Hachem à Moshe, comme mon envoyé. Mon envoyé, ça veut dire que moi, à Paris, je te dis ce que tu dois dire, et tu vas aller à Yerushalayim, et à Yerushalayim, tu diras ce que je t'ai dit à Paris. Ça, c'est un shliach. Ce n'est pas mon shliach. Quand tu vas parler, je serai là. Donc, ce n'est pas que toi, tu vas transporter le message. Et donc, je te montrerai que tu as la force de parler de telle sorte que les gens comprennent que c'est Hachem qui parle par ta bouche. Donc, en quelque sorte, Hachem a rassuré Moshe, lui a dit, ne crois pas que ça sera comme tu penses que c'est une shliachout, c'est-à-dire, c'est un, tu n'es pas mon messager. C'est ça que les Chazal veulent dire quand ils disent que la nevoie de Moshe Rabbeinu, elle est Zéhadavar, comme on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire, celui qui a entendu Moshe Rabbeinu parler, il a ressenti, il a entendu que c'est la parole d'Hachem. Et c'est ça qu'on appelle que la Shrina parle par l'organe de Moshe. Parce qu'Hachem avait dit, Anochi et Yehi, je serai avec ta bouche. C'est-à-dire, je vais faire en sorte que bien que les paroles sortent de ta bouche, tout le monde comprendra que c'est moi qui parle. Quand la Gemara de Megillah, elle dit que les klalot de Mishneh Torah, c'est Moshe qui les a dites de lui-même, Tosfot sur place dit, Tosfot dit, c'était le Ruach HaKodesh. Il était inspiré. Kavanatam, il veut dire, il ne faut pas comprendre que c'est Moshe Rabbeinu qui a inventé et qui a dit ces klalot. Non, mais le Ruach HaKodesh, il a entendu, il a compris ce que Hachem voulait qu'il dise. Le contenu était d'Hachem. Mais quand il a parlé, il fallait que la Shrina medaber, elle medaber et tor grono, pour qu'on entende que c'est la parole d'Hachem. Elle avait dit à ce mot où le vad bita et advarimae. C'est lui-même qui a exprimé les choses sans que Hachem soit comme il l'a dit, Eyeim Picha, je serai avec ta bouche. Et malgré tout, chacun a compris, bien que ce soit Moshe qui parle, clairement, c'était Moshe qui parlait, et là, malgré tout, tout le monde a compris que c'était le Dvar Hachem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu s'était à ce point transformé et devenu à ce point kadosh que même quand il parlait par lui-même des livrets Torah, c'était la parole d'Hachem qu'on entendait. Et c'est ça que le Midrash veut dire, le shono nitrapé. C'est-à-dire sa capacité à parler a guéri. Au début, il a dit Loïch Dvarim Anochi. Et ensuite, Bekoach HaTorah. Donc, Marpé Lachon Etz Chaim, elle est Hadvarim. Bon, c'est ces paroles-là. C'est. Elle, c'est le pluriel de Zé. Donc, c'est. Moshe Rabbeinu est toujours en train de parler Zé Adavar, c'est toujours à la Moshe qu'il parle, et pas à la. Les autres, comme les autres prophètes. Donc, on comprend très bien que toutes les mitzvot qui ont été dites pour la première fois dans Mishneh Torah, elles sont comme les autres mitzvot. Mais Hachem, la différence, c'est dans la façon dont c'est sorti de la bouche de Moshe. Les autres mitzvot, celles des quatre premiers livres, c'est parce qu'Hachem était avec la bouche de Moshe. Et Hachem a fait un miracle, si vous voulez, qui a fait que ces paroles, qui étaient des paroles qui sonnaient comme des paroles humaines, elles étaient reçues comme les paroles d'Hachem. C'est parce qu'Hachem a fait ce miracle, disons, alors que dans Dvarim, ici, dans Eléa Dvarim, Hachem ne fait pas ce miracle. C'est Moshe Rabbeinu qui s'est à ce point transformé. Il est à la fin de sa vie. Moshe Rabbeinu est devenu tellement Torah que quand il parle, même que c'est lui qui parle, on n'a pas besoin de miracle. Tout le monde comprend que c'est Hachem qui parle. Je vais donner un exemple. Pour moi, un exemple. Quand on écoutait Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, parler, il était sans arrêt en train de citer des psukim. Sans arrêt. On l'entendait. Il parlait pratiquement qu'avec des psukim. Donc c'était clair que sa parole, c'était la parole d'Hachem, c'est-à-dire au sens où il citait les psukim. Alors, je vais dire une expérience plutôt personnelle. Quand mon maître parlait, même quand il parlait, même quand il ne citait pas, c'était une citation quand même. C'est-à-dire que sans que les mots soient les mots de la citation, on entendait, enfin, j'entendais quand il parlait, j'entendais les psukim ou les chazals, même s'ils n'étaient pas cités verbatim, je les entendais, bon, je les entends encore dans ce qu'il a écrit. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin qu'il les cite explicitement. Et c'est l'impression qu'on a quand on lit Nefesh HaChaim aussi, on a l'impression que Nefesh HaChaim, même quand il ne cite pas, il est toujours en train de citer. C'est tellement imbibé de Torah que sa façon de parler, c'est juste une autre expression, mais de la même chose, et c'est la parole d'Hachem. C'est la même chose qu'une citation. C'est deux voix différentes. Une peut-être plus évidente, parce que là, tout le monde entendait quand Rabbanier parlait. C'était une citation. Et peut-être que tout le monde n'entendait pas obligatoirement quand mon maître parlait que c'était une citation. Mais en réalité, c'était des citations. Mais habillées différemment. C'est la même chose ici. Il y a la parole de Moshe Rabbeinu, qui est une parole humaine. Seulement Hachem fait qu'elle est reçue comme la parole d'Hachem. Ça, c'est pendant les quatre livres. Et maintenant, c'est une parole humaine, mais sans qu'Hachem fasse que les gens la reçoivent, les gens l'entendaient comme si c'était Hachem qui parlait. On peut presque dire qu'il y avait un risque de divinisation de Moshe. À partir du moment quand c'est Moshe qui parle, et vous avez l'impression que c'est Hachem qui parle, alors il y a un risque qu'on divinise Moshe. Il n'y a plus de grand risque parce qu'il allait disparaître. Et Hachem allait cacher son corps. Personne ne sait où il est pour qu'on ne puisse pas le diviniser. Mais je comprends qu'on aurait pu facilement diviniser, d'après cette explication d'après le Midrash. Et si on explique comme ça, alors on peut comprendre et répondre éventuellement à la question qui est posée dans la Gemara dans Baba Batra. Dans le pasouk, c'est marqué Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Alors, c'est écrit dans la Torah. Dans la Gemara, dans Rav Batra, elle demande comment Moshe il a pu écrire. Vayamot Sham Moshe. Alors, la Gemara, elle demande, Efshar Moshe met le Katav Vayamot Moshe. Il est en train de mourir et il écrit Moshe. Ah, donc, la Gemara, elle répond. Elle a Adkan, Katav Moshe, Mikan Velar, Katav Yoshua, Divrei Rabbi Yoshua. On a répondu une réponse. Et bon, non. Jusque-là, c'est Moshe qui a écrit la Torah, mais quand il faut décrire la mort de Moshe, c'est Yoshua qui l'a écrit. Amarlo, Rabbi Shimon, Efchar Sefer Torah, Chaser Otachat. וכתיב לקח את ספר התורה הזה אל עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמה. לא, די סיבה פסיבי. הספר תורה, לספר תורה אלה אנטי אומר הקריא פעם משה רבנו. ופעם אדמת, וסי יהושע כן הקריא פרטי. Mais il faut admettre qu'effectivement, jusque-là, Moshe disait, Hachem disait à Moshe ce qu'il devait écrire, et il écrivait. Et ici, HaKadosh Baruch Hu lui dit, et il lui dit, écris Moshe Metz, et Moshe écrit en pleurant. C'est Moshe qui a écrit, mais en pleurant, le Dema. Donc on voit ici que même le Sefer Mishneh Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit et Moshe qui écrit. Puisque jusqu'à y compris sa mort, c'est lui qui l'écrit. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on nous dit que c'est Moshe qui a parlé tout seul? C'est toujours Hachem qui lui dit et il écrit. Et Chamrou, chez Moshe, Katvan, Mipiatsmo. Comment on peut dire que c'est Moshe qui a écrit, y compris les klalot de Kabbalah tout seul. Et là, Al-Kochar, il est obligé de dire, Shakol Neymar Mipi Hashem. Tout est parole d'Hashem. La différence, c'est, Er, chez Moshe Amar, Otan, Imashchina hi Amdaberet Mitor Grono. Ça, c'était dans les autres Chumashim. C'est le problème, c'est comment Moshe le dit. Hachem lui dit de dire. Alors, est-ce que Hachem parle par la bouche de Moshe? Ça, c'était dans les quatre premiers livres. Et dans le Mishneh Torah, Moshe Rabbeinu le dit lui-même, Mipi Atzmo, au moment où il le parle, effectivement, il n'y a pas d'aide de la Shrina. Il parle par lui-même, mais c'est Moshe qui s'est tellement transformé que quand il parle de lui-même tout ce qu'Hachem lui dit. Il aurait dit en fait. Et on peut ramener ici un. Il y a un Sefer qui s'appelle le Kli Chemda, qui dit que le Sefer Mishneh Torah, c'est Moshe qui l'a dit de lui-même, mais pas Mipi Hashem, comme le dit le Or HaChaim. Et ça n'est pas en contradiction avec la Gemara dans Sanhedrin. Il dit que toute personne qui dit que toute la Torah, sauf un passouk, sauf un mot, a été écrit par Hachem, enfin dit par Hachem, sauf un mot que c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas en contradiction parce que il y a plusieurs choses qui sont écrites dans la Torah qui n'ont pas été dites depuis Hachem. Par exemple, quand la Torah nous raconte que Avimelech se défend devant Hachem, qu'il a pris Sarah et qu'Hachem lui en fait le reproche, il dit, mais personne ne m'a rien dit, etc. C'est Avimelech qui parle, ce n'est pas Hachem qui parle. Ou bien quand Paro parle, il dit, non, je ne laisserai pas partir, etc. Mais quand Hachem a ordonné à Moshe d'écrire la Torah, alors il a répété ces choses-là, et donc c'est devenu une partie inséparable de la Torah. Ici aussi, dans le Mishneh Torah, c'est vrai que c'est Moshe qui a dit les choses de lui-même, mais dans Arvot Moav, mais avant, quand ils étaient dans le désert, chez Hachem, Irtiv lo et kol Torah, où Hachem lui dictait à ce moment-là toute la Torah, Irtiv lo gam advarim chez Moshe Amar Mipiatsmo. Il lui a aussi dicté les choses où Moshe a parlé par lui-même. C'est juste que alors, c'est devenu une partie de la Torah. C'est-à-dire, même si c'est lui qui aurait dit ce passou, Hachem lui a dicté de l'écrire, Hachem a repris à son compte. Et donc, la Torah que nous, c'est ce qu'Hachem a dit, et pas celui, pas Avimelech et ceux qui ont les paroles, etc. Donc, du coup, si on dit que ça n'a pas été dit par Hachem, alors c'est gravissime parce que tout a été répété par Hachem. Donc dans ce cas-là, ça s'appelle Kidva Hachem Baza ou Baza. C'est-à-dire, ici tout est. Il était me baser la totalité en fait. Il faut juste dire que ça n'inclut pas les mitzvot qui sont uniquement dans le Mishneh Torah. Chaz lo itachen shebatrila Moshe Amaran mipnei atzmo. Là, on ne peut pas dire que c'est d'abord Moshe qui les a dites. Là-dessus, là, on est obligé de dire comme le Ramban, qui dit que shenitztaveh becholotan mitzvot mikodem, v'rak ahavatam libnei Israël. Ça a pris du temps pour des raisons que le Ramban lui explicite. C'est-à-dire que ces mitzvot qui n'existent que dans le Sefer Dvarim, c'est les mitzvot qu'Hachem avait donné à Moshe avant la fin de sa vie, et que Moshe a jugé, Moshe lui a dit, tu les donneras. Donc, tu penseras que c'est exactement comme on le fait avec des prophéties, où Hachem parle à un moment et dit, je te dirai quand il faudra le dire. Donc, c'est Moshe qui a compris que c'est des mitzvot un peu spéciales. Effectivement, on pourrait se concentrer sur ces mitzvot pour essayer de voir qu'est-ce qu'elles ont de spécial et pourquoi ces mitzvot spécifiquement. Elles ont été retardées, elles n'ont pas été dites tout de suite, tout de suite. Bon, c'est vrai que c'est des mitzvot un peu spéciales. Enfin, en tout cas. Et donc, c'est bien que Hachem, c'est des mitzvot d'Hachem, elles ne sont pas inventées par Moshe, mais elles sont dites par Moshe dans un sefer où c'est lui qui parle, bien que tout le monde comprenne bien que quand il parle, c'est comme si Hachem parlait. C'est pour ça qu'on peut essayer de résoudre un peu ces questions qui sont des grosses questions, évidemment. Moshe Rabbeinu, dans une des. En verset 7, verset 9, il dit Va'amar alechem, va'et haï les morts. J'ai dit, votre sujet, en son temps, Lo'uchal levadi se'et etchem. Je ne peux pas tout seul vous porter. Et dans le. Ça, c'est dans le pasuk tête, dans le pasuk tête, Yud-Bet, pardon. C'est marqué Echa Esa Levadi. Comment pourrais-je vous porter tout seul? Alors, le. Meshech Chochma, il dit. Je vais donner une espèce de parabole. Quand quelqu'un a une bracha extraordinaire de richesse et d'enfants, alors bien sûr, il va avoir un travail important à faire pour éduquer ses enfants. Et comme il est assez riche, alors il pourra avoir des nourrices et des servantes, etc., tout un personnel, autant de personnel que nécessaire. Alors on pourra dire, Ma gadla alai a torah mekem. Combien j'ai de travail à cause de vous? Yitachen Hashem, ki chen yeh lachem bibnechem, bibnechem, tichot ka'ele. Ve torat kaze lo yufsak miken. Est-ce que il pourrait dire effectivement, Hashem fasse que vos enfants, vos petits-enfants, vous donne autant de travail, de ce genre de travail, et que ce genre de travail, vous l'ayez en permanence. C'est ça, Ken Moshe Roé Neeman. Moshe était un berger fidèle. Et il dit, Hachem, Irba Etrem, Hachem vous a multiplié. Vinchem que Chorvé et vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ou de Mala Mufleget Alderech ici. D'une façon complètement extraordinaire, miraculeuse. Alors il dit, Sheken Yomru, Roé Israël, Umanigiem, Uneviehem, Tamid Alechem, que les bergers d'Israël, ceux qui vont vous guider, les prophètes, etc., que eux aussi se plaignent de la même manière que je me plains ici. Zeshe Amar, Va'amar Alechem, Ba'et Ha'i, les morts, pour ça qu'il dit ici, j'ai dit à votre sujet, à cette époque, Sheken Yomru Tamid Alechem, que toujours on puisse dire la même chose de vous, que fi asher atem bematsav ha'et hazeh, Roé Israël, Yeshayahu, Yirmiyahu, Kiyotse bezeh. Mon cher Abénou, quand il mentionne j'ai dit que j'en pouvais plus. J'avais tellement de travail à cause de vous. Je ne peux pas vous. En fait, ce que je veux dire, c'est que je souhaite que tous les gens qui vont vous diriger, il va citer après seulement Yeshayahu et Yirmiyahu, donc les prophètes qui vont vous diriger, les chefs qui vont vous diriger, que eux aussi se plaignent comme je me plains. C'est-à-dire, se plaignent parce que à ce moment-là aussi, les bénis Israël seront très riches et qu'ils seront, ils seront très nombreux, etc. C'est-à-dire qu'à la limite, le fait que je n'arrive pas à porter, ce n'est pas un défaut. C'est parce qu'Hachem nous donne tellement de bénédictions que j'y arrive pas tout seul. J'y arrive pas tout seul, mais j'ai aucun problème parce que j'ai assez de personnel pour s'occuper des enfants et de tout ce dont il faut s'occuper. Je souhaite que ce soit toujours comme ça, que vous soyez toujours tellement nombreux, suffisamment riches pour dire, voilà, j'y arrive pas tout seul, mais Hachem m'a donné de quoi, de quoi me soulager, en fait, avec, je peux avoir autant d'aide que nécessaire, que personne ne soit dans une situation où on dit les Bnei Israël, ils sont complètement paumés, et que les chefs, bon, y a pas beaucoup y a pas à s'occuper de beaucoup de choses. Les Israël sont peu nombreux. C'est des petits travaux, etc., que Moshe leur souhaite. Ils souhaitent la bracha. Ils souhaitent cette bracha de Osher et Banim. Et il dit, je souhaite que ce soit le cas pour tous les chefs que vous aurez par la suite, qu'ils soient eux aussi dans cette situation où je suis. C'est-à-dire, c'est vrai que je ne peux pas, j'y arrive pas tout seul, mais Hachem a donné au clan d'Israël suffisamment de richesse et d'aide pour qu'effectivement, on puisse faire ce qu'il faut faire pour le clan d'Israël. Je n'y arrive pas tout seul, mais j'ai les moyens de m'occuper de tout le monde parce que j'ai suffisamment de personnel et un personnel suffisamment aimant, responsable, etc. Que le clan d'Israël soit structuré, il soit dans l'abondance. Et qu'il ait les moyens de vivre avec cette abondance-là. Que tout le monde soit effectivement dans cette beracha, dans cette bénédiction, et pour toutes les générations. C'est comme ça qu'il lit et pas du tout que Moshe se plaint seulement, vous êtes insupportable, ou etc. Mais. Voilà, vous me donnez beaucoup de travail, mais c'est pas. Hachem nous a aussi donné beaucoup de moyens de faire face à ce supplément de travail. Cher Chochma. Lui, il dit, c'est beaucoup de Je suis effectivement, je croule sous le travail et j'ai besoin d'aide. Mais lui, il dit, c'est pas du tout un reproche. C'est effectivement, on peut le lire en termes de bracha. C'est vrai qu'on pourrait le lire en termes de simplement quelqu'un qui dit, j'ai trop de travail, point barre. Le Meshech Rochma, il pense que Moshe Rabbeinu, quand il dit ça, il le dit en forme de bracha. Bon, alors, je sais pas, ma femme, elle n'est pas convaincue. Ah non? Alors, je ne sais pas, ici, j'ai pas, on n'a pas lu tout ce qu'il dit sur les autres. C'est la première chose. Il dit directement, le premier commentaire qu'il fait là-dessus, je pense qu'il doit aller dans ce sens-là, dans toutes les. Je crois que c'est comme ça, effectivement. Moshe Rabbeinu n'a pas rassemblé tout le clan d'Israël pour leur dire simplement des méchancetés ou des reproches seulement. Ces reproches sont, mais on peut transformer tout ça en bracha. Voilà.
Je lis le Teilim, je n'entends